Divergence FM présente l'Hebdo du Sherpa, une émission animée par David Bou. Tous les mardis de 18h à 18h30, un gros sac à dos d'informations. Chaque semaine, une revue de presse et une interview percutante. Théâtre, gastronomie, voyage et bien d'autres sujets. L'Hebdo du Sherpa, en direct tous les mardis de 18h à 18h30.
Bonjour et bienvenue à l'Hebdo du Sherpa, tous les mardis de 18h à 18h30, bien sûr. Vous pouvez nous faire part de vos émotions, de vos questions et de votre avis, soit par email, hebdo du Sherpa, tout attaché, @divergence-fm.org, soit par téléphone en direct pendant l'émission au 04 67 66 33 33. Je vous rappelle que vous pouvez également écouter Divergence FM, et c'est peut-être d'ailleurs ce que vous faites déjà sur Internet, sur le site de Divergence FM, ou bien à la radio 93.9, bien entendu. Bonjour à tous. On commence avec la petite revue de presse hebdomadaire. Télévision, vendredi 6 novembre sur Arte. À 20h40, un documentaire sur la vie de Guy Bedos, entre la Corse et Paris, chez lui ou au théâtre. Guy Bedos nous parle de ses racines en Algérie, sa famille, de son arrivée en France dans les années 50. À la fois poétique, drôle et émouvant, Guy Bedos se livre avec une étonnante générosité. On n'a pas l'habitude de le voir sous cet angle-là, c'est assez intéressant. Je vous le conseille vivement, c'est ce vendredi 6 novembre à 20h40 sur Arte. France 4, à 20h35, toujours vendredi 6 novembre, toujours de l'humour avec le one-man show de Jean-Luc Lemoyne au naturel. Il s'agit de son troisième solo enregistré au Théâtre du Temple à Paris. Bon, c'est pas vraiment du stand-up dans le style, mais sans artifice, je dirais, sans costume, sans décor. Jean-Luc Lemoyne, si vous ne le connaissez pas, il évoque un petit peu la vie quotidienne. Alors c'est ça qui peut rappeler le stand-up, mais avec un humour très grinçant, un humour noir qui est quand même assez convaincant. Sur Canal+, toujours vendredi 6 novembre à 20h50, un gros film de bourrin, hein, il en faut de temps en temps finalement, hein, ça décontracte. Hein. Le titre Go Fast, rien que le titre évoque pleinement l'ambiance surréaliste et contemplative d'une automobile qui va super vite. Ouais, génial. Ça c'est sur Canal+, à 20h50 vendredi, pour les fans de films engagés, j'ai envie de dire. Ce samedi 7 novembre sur Arte, un documentaire très intéressant sur la conquête de l'Amérique en deux épisodes. C'est à 20h45. Et sur M6 à 23h10, un concert pour la tolérance à Agadir, avec notamment Marc Lavoine, Kool Shen, Gérald de Palmas, Bob Sinclair. Bref, ça n'a pas l'air génial. C'est sur M6 en tout cas. Gastronomie, le guide d'Hugo Himino est sorti. Alors, il est sorti jeudi dernier, 29 octobre. Et l'une des révélations françaises de l'année, on doit être fier de notre région, puisque c'est Gilles Goujon, et non pas Gilles Gouget, hein, ça n'a rien à voir. Gilles Gouget, qui, je le rappelle, est directeur d'antenne chez Divergence. Gilles Goujon, eh bien, qui s'est classé devant certaines légendes de la gastronomie française. Hein, Paul Bocuse notamment, puisqu'il a obtenu que 4 tocs, et le chef de l'auberge du Vieux Puy, donc Gilles Goujon, qui est à Fonjon-Couze dans l'Aude, fait partie du top 12 des cuisiniers français. C'est le seul chef du Languedoc-Roussillon et de l'Aveyron réunis qui réussit à obtenir les 5 tocs. Alors effectivement, le Guy Mignot, pardon, c'est également mis à ses systèmes à supprimer son système de notation pour faire apparaître ce système de tocs, hein, de 1 à 5 tocs. Alors je sais pas, peut-être qu'un courant de guide Michelin flotterait dans les couloirs du Goyimilo, je ne sais pas. Moi j'aimais bien ce système finalement de notation sur 20, je sais pas, ça permettait de se faire une idée à la fois plus détaillée et plus vaste de chaque restaurant et chaque chef. Mais enfin, nous verrons bien la prochaine édition du Goyimilo qui est sortie. Mais revenons à Gilles Goujon, alors qui, selon le guide, hein, arrive à créer une cuisine, alors je cite, « à la nitroglycérine et une explosion dans une goutte, une miette. Ses produits sont d'exception, pardon, et sa cuisine est un spectacle hors norme. Hein, » voilà, c'est Dixit, le Goyimilo. À Montpellier, bien sûr, les frères Pourcel et leur jardin d'essence conservent leur matricule avec 4 tocs. Alors, j'ai pas encore, mais on en parlera la semaine prochaine. Un petit peu le détail du guide Michelin, savoir au niveau des étoiles ce que ça a donné pour les frères Pourcel. La maison de la Lozère, quant à lui, avec le chef cellier, obtient 3 tocs. Une maison, ma foi, bien sérieuse et que j'espère on recevra bientôt. Pas très loin, à Port-Camargue, le Carré des Gourmets, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, et qui obtient lui également 3 tocs. Il en est même pour les Muscardins à Saint-Martin-de-Londres. Pour ceux qui sont dans la région, allez-y, des produits raffinés et une ambiance très très chaleureuse pour les Muscardins. Pardon, mais évidemment ce soir je bafouille. Le Goemino a décerné à peu près de 1 à 5 tocs à 3560 restaurants dans toute la France. Donc la semaine prochaine, on vous parlera un petit peu de ce qui s'est passé au niveau du guide Michelin, ou ce qui va se passer, ou quand c'est que ça va sortir. Une petite anecdote avant de bientôt vous parler, enfin lancer plus ou moins l'interview de Luca Franceschi en deuxième partie. Une petite anecdote assez amusante. Alors voilà, ça a été une surprise pour les douaniers norvégiens à l'arrivée d'un ferry en provenance du Danemark la semaine dernière. Un jeune homme essayait d'importer illégalement 14 pitons et 10 lézards, cachés où ? Je vous pose la question. Je te pose la question, Bruno. Alors, où était-il caché ? Et non. Alors, je vois Bruno qui me fait des signes atroces. Mais non. Ils étaient tout simplement, ces 14 pitons et ces 10 lézards, scotchés sur son corps. Scotché, voilà. Alors, adepte du sadomasochisme, vous êtes des petites frappes à côté de lui. Hein. En tout cas, il s'est fait choper par les douaniers norvégiens. Écologie, enfin. Très, très important. Un message très important, de la plus haute importance. Pourtant, je sais que vous allez, qu'il y a tendance à rire de cela, mais c'est sérieux. Les pets de vache vont-ils nous tuer ? Il ne s'agit pas du titre du nouveau spectacle One Man Show de Bigard, mais bien une réalité écologique. L'explosion de l'industrie de la viande est un fléau pour la planète. Exemple, les méthanes des vents bovins, un gaz à effet de serre plus nocif que le CO2, il faut le savoir. Pour sa survie, l'homme devra-t-il devenir végétarien ? Je vous pose la question. Alors, quelques chiffres. L'industrie de la viande est aujourd'hui la deuxième émettrice de gaz à effet de serre au monde, juste derrière l'industrie de l'énergie. Qui est tant quand même. Hein. Elle en produit 18%. Soit plus que tous les transports planétaires réunis, 14%. Vous imaginez ? C'est quand même impressionnant. 18% émis tout au long de la chaîne de fabrication de nos steaks. Hein, si on prend en compte depuis les engrais chimiques, hein, la fabrication pour les fourrages, jusqu'à l'azote du fumier, via les pets et surtout les rots de vaches chargés en méthane, c'est hallucinant, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le gaz carbonique. Ça laisse pantois. Et c'est le nouvel observateur qui fait un reportage là-dessus. Les pets de vache et les rots de vache. Je vous laisse découvrir ce reportage. Sorti donc à Montpellier pour cette semaine, on vous conseille vivement, très vivement, Gualicho à la Vista. Ça aura lieu donc ce vendredi 6 novembre à 21h. Une très belle écriture et une très belle performance avec du flamenco sous une ambiance argentine, une comédienne et une danseuse de flamenco qu'on vous conseille vivement au Théâtre de la Vista ce vendredi 6 novembre. On a eu l'occasion de les recevoir et j'espère qu'on les recevra encore. Gualicho à la Vista. Je vous rappelle que vous êtes sur l'hebdo du Sherpa. Vous pouvez nous faire part de vos émotions, vos questions, hein, de réagir par email hebdo-du-sherpa@divergence-fm.org, soit par téléphone. Alors je redonne le téléphone: 04 67 66 33 33 ou ben voilà, j'ai dit les deux de toute façon. j'ai dit l'email et le téléphone, voilà. Et sans plus tarder, la deuxième partie de l'émission est consacrée à Luca Franceschi. C'était à la Vista il y a 15 jours et il interprétait Être ou ne pas être, qui est un monologue entre la Commedia dell'arte et puis Shakespeare, parce qu'il y a des véritables morceaux de Shakespeare dedans, bientôt au théâtre Pierre Tabard du 1er au 13 décembre. Je vous laisse en compagnie de Luca Franceschi, c'était il y a 15 jours, pour sa pièce de théâtre, son monologue « Être ou ne pas être ». À tout à l'heure, vous êtes sur l'hebdo des Sherpas sur Divergence FM.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Luca Franceschi. Je le fais avec mon accent italien, avec mon modeste accent italien. On vient d'assister à la représentation « Être ou ne pas être » au théâtre
La Vista.
Ça fait combien de temps que vous tournez ce spectacle ?
Alors, ce spectacle, il a été créé au Théâtre d'Eau en 96. Non, en 2006. 96, je confonds la date de la création de la compagnie. En 2006, donc en mars 2006, donc il a presque 3 ans.
Ça a commencé comment, cette histoire de être ou ne pas être ? Est-ce que c'est vraiment... ça a démarré sur la passion de Shakespeare ou c'est autre chose?
Ben, tout d'abord, ça a commencé parce que ça a commencé par un dialogue que j'ai eu avec le directeur du Théâtre d'Eau de l'époque, qui était Jean-Michel Soloc, qui était directeur d'un théâtre contemporain, qui produisait des spectacles contemporains et avait vu mon travail et voulait coproduire un de mes spectacles. Et ce que j'avais à l'époque, c'était des adaptations de Shakespeare. J'avais un Hamlet et il me disait, je ne peux pas accueillir un spectacle d'un texte classique, il faut un texte contemporain. On a cherché longtemps un texte contemporain. Et puis, moi, je lui exprimais mon envie de faire un spectacle qui était sur cette idée, une création écrite par moi, un texte, un rapprochement entre le comédien et le personnage, avec une idée d'un comédien qui voulait réaliser des textes de monologues de shakespeariens. Donc voilà, on est parti sur cette idée-là.
Presque une commande, on pourrait dire, alors.
Pas vraiment.
C'était quand même une très forte envie de votre part, quoi.
Pas vraiment, parce que c'est pas lui qui m'a donné l'idée, mais il m'a fait une commande d'écriture, quelque part, et moi, je lui ai dit, mon envie, c'est celle-là, il a trouvé ça. Il m'a dit, bah oui, c'est du contemporain, c'est toi qui l'écris, t'es un auteur vivant. Donc, tout va bien, et voilà.
Un spectacle, comme vous le dites d'ailleurs dans le spectacle, très interactif, où il est beaucoup question de retour dans le public, enfin en tout cas d'aller-retour aussi bien sur scène que dans le public, et qui démarre dans le public, on n'en dévoilera pas plus.
Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morir. E se io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellir. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fior. Passeranno, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. E tutti quelli che passeranno e poi diranno.
Alors, le synopsis est finalement assez simple. C'est le retour, enfin, c'est l'aller-retour entre le personnage et le comédien. Vous êtes complètement schizophrène, en fait.
Oui, en fait, moi, ça me plaisait beaucoup, cette chose que j'ai déjà vue, que ça a déjà été fait par d'autres, cette rapprochement, comme ça, cette confrontation entre un comédien et son personnage. J'ai cherché comment pouvoir le mettre en scène, et l'idée est venue de cette chose d'un personnage qui oblige son comédien à l'interpréter. Donc un personnage qui raconte avoir kidnappé son comédien. Et de là, donc, tout est venu, le récit d'une création d'un spectacle difficile à se faire, et dans lequel, voilà, au moment, le personnage, il en peut plus, il en a marre des hésitations du comédien, et il décide de le kidnapper.
Oui, il y a un réel crescendo au fur et à mesure du spectacle. On en arrive à un point où, franchement, en tant que public, on se dit mais ils sont deux, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un point culminant où je me suis dit, alors je sais pas si je suppose que vous connaissez Arturo Brachetti. On se dit mais c'est incroyable. Comment vous avez travaillé là-dessus, sur ce changement de personnage, entre le personnage et le comédien, du coup ces deux personnages que vous nous donnez sur scène, mais comment vous faites ?
C'est drôle parce qu'en fait c'est un spectacle pour lequel je me suis surtout dédié à l'écriture. C'est un spectacle qui a pris beaucoup de temps à l'écriture. J'ai fait très...
Combien de temps alors ?
Je crois c'était presque un an d'écriture avec 13 versions différentes. Je n'arrêtais pas de changer, je ne trouvais pas...
Quand vous parlez de versions, ça veut dire que c'est des versions qui ont été jouées d'abord juste écrites ?
Avant de la jouer. Mais... une fois que le texte me satisfaisait, la mise en place, les répétitions étaient très courtes en fait. Et puisque c'est probablement parce que c'est moi qui l'avais écrit, parce qu'en écrivant, je me posais la question de comment le faire, parce que j'écrivais tout en jouant. Après, voilà, c'est venu presque naturellement.
Alors écrivez, vous écriviez en jouant, en improvisant.
Un petit peu. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment. À la base, je suis comédien. Donc après, ça m'arrive d'écrire, mais je ne suis pas un auteur. Je ne sais pas écrire tout en restant assis à la table. Je me lève, je commence à improviser quelque part.
Avec l'aide d'un metteur en scène à ce moment-là ?
Non. J'ai eu pour ce spectacle, j'ai eu deux œils extérieurs, deux aides, un qui était Gérard Santi et l'autre qui était Mais Laporte, qui m'ont fait des retours juste en regardant. Garder un petit peu quelques répétitions.
Pendant l'écriture, c'était
Non, ça c'était pendant les répétitions. L'écriture et donc cette improvisation durant l'écriture, je le fais tout seul.
Luca Franceschi, qu'est-ce que ces deux personnes vous ont apporté ? C'est-à-dire Gérard Santi. Et la deuxième personne, c'est
Mais Laporte. En fait, ils m'ont apporté tout simplement la... Ce sont des spectacles dans lesquels la vie du public est indispensable. De savoir qu'est-ce que le public comprend, est-ce qu'on arrive à suivre, est-ce qu'on est perdu, Et donc, ils m'ont apporté un œil d'un public. Et eux, ils ont fait ça durant la période de répétition. Et après, c'est un spectacle que j'ai joué presque 80 fois. Et après, c'est vrai que le vrai public m'a fait cet œil extérieur. Le spectacle s'est modifié au fur et à mesure. Et chaque fois, il évolue selon la réponse que le public me donne, s'il suit, s'il comprend, s'il réagit ou pas. C'est vrai que c'est un spectacle qui... J'ai plusieurs personnes qui l'ont vu 3, 4, 5 fois, et parce que...
Il a évolué.
Il évolue et continue à évoluer.
Au niveau écriture aussi,
oui,
bien sûr.
Bien sûr. Et l'avantage énorme d'un spectacle comme celui-ci, c'est que j'en suis l'auteur, le metteur en scène, le comédien, donc je n'ai besoin de demander rien à personne. Je peux me permettre de changer au dernier moment, de changer même le soir même, et voilà, personne ne me dira...
Qu'est-ce que vous avez comme formation à la base? Est-ce que c'est un théâtre classique?
Non, absolument pas. Moi, j'ai fait une première école en Italie de théâtre. C'était une méthode de Lecoq, Jacques Lecoq, qui est quelqu'un qui avait une école à Paris dans laquelle il faisait du théâtre.
Référence, une référence,
ouais,
énorme.
Une référence, ouais. Théâtre masqué, la comédia, le mime, le clown et tout ça. Après, j'ai fait 3 ans l'école Marcel Marceau, avec Marcel Marceau, le mime.
Himself.
Oui.
Ah
oui. Oui, lui-même. Et après, j'ai travaillé la Commedia dell'arte, qui est la base un petit peu de tout le travail que j'ai développé ensuite. J'ai jamais fait d'école, je l'ai pratiqué. J'étais dans plusieurs compagnies en Italie, en France.
Vous avez déjà été touché au théâtre de rue?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
J'imagine.
Oui, bien sûr. J'ai fait du spectacle de rue, de théâtre. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne école. Parce que c'est là où le public, il faut aller le chercher. Et ce n'est pas un public.
Et clown. Clown, ça c'est, oui, on peut le dire aussi. Hein, dès le début du spectacle, on voit vraiment le clown qui est en vous. Et vous allez chercher le public où il y est. Où il est. C'est vraiment. On va le chercher et on l'emmène.
Mais la Commedia dell'arte, ou comme vous disiez, le théâtre de rue, il a cette chose-là, c'est que le public, il faut aller le chercher. Et aller le chercher et après l'amener où on a envie de l'amener. Et c'est tout à fait une autre démarche d'un style de théâtre où on sait que le public, il est là, qu'il vient, qu'il s'assoit et qu'il nous écoute quoi qu'il arrive, ou que ça peut même lui arriver de s'endormir et il partira pas. C'est une démarche dans laquelle on essaye de tout faire pour que le public soit réactif, attentif, il puisse rire, s'émouvoir, et on le fait pour lui, on le fait pas pour nous.
Est-ce qu'il y a un règlement de compte avec peut-être le théâtre contemporain? Ou quoi? Parce que c'est vrai que le personnage a un côté un peu arrogant, un peu pédant, comme ça, qui s'adresse à son metteur en scène en croyant qu'il a la science infuse. Et du coup, ça lui donne un côté un peu pédant, arrogant. Est-ce qu'il y a un règlement de compte avec le théâtre? Enfin, je sais pas, hein, je pose la question entre d'être classique ou contemporain.
Oui, je sais pas si règlement de compte c'est le bon terme, mais c'est vrai que moi j'ai fait avec ma compagnie depuis 13 ans maintenant, on fait de la Commedia dell'arte à la base, c'est un style de théâtre populaire. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de blocages, de retours de la part de ce qui est le théâtre contemporain. Comme, on dirait quelque part qu'il y a deux types de théâtre. Il y a le théâtre sérieux qui vaut la peine, qui a un certain niveau. Et puis le théâtre populaire qui est un petit peu dénigré, un peu considéré comme...
Vous le dites d'ailleurs dans le spectacle.
Un petit théâtre, oui. Et donc, en fait, j'ai voulu plutôt que me garder tout ça pour moi, de le dire.
Ça fait du bien d'ailleurs, parce qu'on se dit dans ce spectacle, on dit non, il va pas le dire quand même. Et puis s'il le dit, finalement, il n'y a pas de tabou comme ça, parce que nous, on a envie de... Ah oui, il va le dire quand même, que finalement, il y a quand même un écart entre cette comédien un peu pédant et puis la réalité.
Mais c'est qui, en fait, c'est qui, par rapport à ça, le règlement de compte, en tout cas, je n'ai rien inventé. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des choses qui sont dites par des représentants un peu d'un autre théâtre que le nôtre, comme le metteur en scène ou comme les directeurs de théâtre qui sont représentés dans le spectacle et tout ça, ce sont toutes des choses qui m'ont été dites pour du vrai. Donc je n'ai fait que transcrire ce qui m'a été dit pour du vrai.
Donc juste pour conclure, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait vraiment une réelle douceur poétique qui était vraiment présente dans tout le spectacle de A à Z. Et on découvre des chansons italiennes qui sont très bien, finalement.
Ben évidemment.
Mais ouais, c'est super.
C'est des musiques italiennes, c'est 70-80. Le personnage le dit, et moi aussi.
Parce qu'on était plusieurs spectateurs à se dire, mais c'est la chanson italienne, la musique italienne, mais c'est très bien, finalement, parce qu'on a, on a toujours des a priori sur...
Ben, en fait, ce sont des musiques vraiment des années 70 qu'on a la tendance à décrire un peu comme une musique un peu ringarde.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que...
En France, en tout cas.
En France, en tout cas. Et c'est vrai que ce côté... un peu kitsch, un peu ringard, je trouve que ça va bien au spectacle. Ça donne une dimension poétique, justement, qui me plaît beaucoup.
Je confirme, ça passe très bien. Alors, être ou ne pas être, et les prochaines dates alors,
et après, ça sera joué au théâtre Pierre Tabar du 1er au 13 décembre.
Décembre. Merci beaucoup, Luca Franceschi, et à très bientôt. Bonne continuation.
Merci, merci à vous.
De retour sur Divergence FM, l'hebdo du Sherpa, c'était donc une interview de Luca Franceschi au théâtre La Vista, et il y a de ça une dizaine de jours. C'était un vrai plaisir, une belle rencontre pour être ou ne pas être au théâtre La Vista, qui va se rejouer au théâtre Pierre Tabar du 1er au 13 décembre. Ne ratez pas cette performance artistique, j'ai envie de dire un peu schizophrène, entre le personnage et le comédien. C'est extraordinairement bien joué et drôle et émouvant. Voilà, donc ne ratez pas, je rappelle les dates du 1er au 13 décembre, être ou ne pas être avec Luca Franceschi, toujours à La Vista, ne ratez pas non plus, en fin de semaine, jeudi, vendredi et samedi, donc 5, 6, 7 novembre à 21h, Gualit Show, et dimanche à 18h30, et Gualit Show interprété par Charo Beltran Núñez et Katia Poza, une comédienne et une danseuse de flamenco. Alors, vous connaissez le Gualit Show ? Non, peut-être pas. Alors, Gualit Show, eh bien, ce mot désigne soit le génie du mal, soit plus spécifiquement la potion qu'une femme prépare pour s'attirer les saveurs d'un homme qui l'a laissé ou l'ignore. Alors, sur scène, Gualit Show, c'est l'histoire de Charo, l'enjôleuse, dépassée par la force de ce breuvage explosif. Charob, une robe rouge écarlate, un accent latino brûlant, on avait l'occasion de la recevoir, c'est une comédienne extraordinairement vivante. Une danseuse, Katia, l'autre femme en robe rouge également, talons séducteurs, rageurs ou fougueux, qui va danser en accompagnant les propos de la comédienne. Alors, entre Almodovar et Garcia Lorca, ces théâtres flamenco, à ne surtout pas rater en fin de semaine, 5, 6, 7 et 8 novembre au théâtre La Vista, avec, je le rappelle, Charo Beltran Núñez et Katia Poza. Désolé pour l'accent, c'est pas fabuleux comme accent. On enchaîne avec la compagnie de l'improviso, pardon, pour revenir sur Luca Franceschi et son actualité. Parce qu'il n'y a pas que du spectacle dans sa compagnie, il y a aussi des stages très intéressants à ne pas rater, avec notamment 21 et 22 novembre un stage de voix, l'utilisation de la voix, un stage dirigé par Gérard Santi, comédien, directeur d'acteur, chanteur qu'on ne présente plus et qui est une référence pas que sur Montpellier, Gérard Santi. Alors je vais vous donner en tout cas deux stages dont j'ai choisi de souligner l'intérêt. Ça aura lieu au Centre de formation des arts du spectacle à l'ODEV. Je vous donne le téléphone, je vous le redonne à la fin. 04 67 88 67 30, donc au Centre de formation des arts du spectacle à l'ODEV. Donc le stage de voix, tout d'abord 21 et 22 novembre, je me dépêche, 23 et 28 novembre, le stage de Comédia dell'Art par Luca Franceschi, aux sources d'un théâtre populaire. Bon, c'est la Comédia dell'Art, c'est vraiment également la référence dans la région, Luca Franceschi, sur la Comédia dell'Art, à ne surtout pas rater si vous êtes intéressé par ce genre de stage théâtral de qualité. Pour finir, j'espère qu'on aura l'occasion de vous passer une interview de Jean-Pierre Daroussin qui va jouer bientôt La Chapelle en Brie au théâtre Jacques Coeur. Ce sera le 20 novembre au théâtre Jacques Coeur. Écoutez, on aura l'occasion d'en reparler, j'espère. Hein, c'est un petit peu une version contemporaine d'Harpagon. Moi, j'y serai, Jean-Pierre Daroussin. Ne ratez pas, c'est juste une représentation le 20 novembre au théâtre Jacques Coeur. C'était l'hebdo du Sherpa. À très très bientôt, en tout cas à mardi prochain pour un nouvel épisode de l'hebdo du Sherpa. N'hésitez pas à nous faire part de vos émotions, de vos questions, de votre avis, soit par email hebdo-du-sherpa@divergence-fm.org, soit par téléphone en direct au 04 67 66 33 33. Et tandis que retentit le générique, je vous laisse bonne semaine, à mardi prochain.
Chaque semaine, une revue de presse et une interview percutante. Théâtre, gastronomie, voyage et bien d'autres sujets. L'hebdo du Sherpa, en direct tous les mardis de 18h à 18h30.